Vous êtes sur RTL. Thomas Soto,
RTL Soir.
Il est chirurgien, il est président de la commission médicale de la Fédération internationale de l'automobile, président aussi de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Le professeur Gérard Saillant est notre invité. Bonsoir et bienvenue, professeur Saillant.
Bonsoir.
Je voudrais savoir ce que vous vous êtes dit, vous, quand vous avez vu hier la voiture de Romain Grandjean s'encastrer à 220 km/h et prendre feu juste après le départ du Grand Prix de Bahreïn.
D'abord, c'est la stupéfaction, parce qu'on n'a pas vu d'incendie comme ça depuis des années, sinon des dizaines d'années. C'est la stupéfaction, et puis ensuite, c'est la terreur, parce que on sait que la durée de vie dans un incendie comme ça est quand même limitée si on n'en sort pas très très vite. Et puis ensuite, un soulagement extraordinaire au bout du 20 à 30 secondes, quand on voit l'ombre de Romain sortir de ses flammes.
Il a passé 28 secondes en enfer, Romain Grandjean.
Oui, 28 secondes en enfer, et il s'en est sorti. Alors on dit que c'est un miracle, c'est vrai que c'est un miracle parce qu'il était conscient qu'il a pu sortir tout seul, mais également c'est un miracle aidé parce qu'il y avait quand même beaucoup d'organisations de sécurité tout autour, et puis un certain nombre de moyens de protection dans la voiture.
C'est un miracle qui ne doit rien au hasard, et on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, vous avez eu des nouvelles directes de lui aujourd'hui ou pas?
Oui, j'ai eu ses médecins encore tout à l'heure. Manifestement, il va bien, il est tout à fait conscient, il parle comme vous et moi. Il a des brûlures relativement superficielles sur le dos de la main et puis une cheville qui est un peu endolorie, mais a priori rien de méchant.
Ça veut dire qu'il est vraiment tiré d'affaire, parce qu'on se demande évidemment toujours, et j'entendais Michel Simès ce matin chez Yves Calvi, on se demande s'il ne peut pas y avoir des effets un peu plus tard,
mais quoi,
parce
il
que
peut...
le corps encaisse quelque chose d'inouï.
Il y a deux choses. Il y a le traumatisme en lui-même, 56G ou 53G, c'est beaucoup, mais
donc
c'est quelque chose...
53 fois son poids. Hein,
c'est quelque chose auquel on est relativement habitué, et c'est le nombre de G dans la voiture, pas obligatoirement sur lui, ce qui est un peu différent. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement de respirer un certain nombre de vapeurs d'incendie, et on connaît ce qu'a eu l'ODA comme ça, avec des problèmes respiratoires. Là, manifestement, il n'a actuellement aucun problème respiratoire, avec une capacité vitale tout à fait normale.
Donc physiquement, on croise les doigts, tout a l'air d'aller à peu près correctement. Psychologiquement, comment on se relève d'un coup pareil?
C'est à lui qu'il faut demander.
Ouais.
C'est à lui, mais ce sont des êtres assez extraordinaires qui prennent des risques dont ils ont conscience, mais qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils veulent ignorer. Et je suis persuadé qu'il n'a qu'une seule hâte, c'est de ne pas finir sa carrière en Formule 1 sur cet accident, et qu'il cherche à vouloir piloter, sinon la semaine prochaine, tout au moins dans 15 jours.
Alors venons-en à ce mot de miracle que vous évoquiez. Vous êtes le président de la commission médicale de la FIA, je le rappelle. Vous le reprenez ce mot ou pas? C'est un miraculé ou pas, Grosjean?
Oui, c'est un miraculé parce que vous voyez ça dans des films, vous voyez ça, mais vous voyez que dans des films ou à peu près. Mais ceci dit, il faut aider le miracle, il faut aider la bonne nature. Mm-hmm. La bonne nature, c'est qu'il était conscient, qu'il a pu sortir tout seul et relativement rapidement. Mais en l'aidant, et je pense que tout ce que la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, et sous l'instigation de Jean Todt en particulier, a fait depuis des années, je dirais même avant, depuis l'accident de Senna, c'est vraiment après l'accident de Senna, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans, 25 ans, que les choses ont véritablement évolué. Et tous les week-ends, je dirais, on voit des accidents relativement graves en Formule 1 avec un minimum de lésions.
Alors s'il est vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il a été protégé par le halo de sa Formule 1.
Oui.
Le halo, c'est cette structure en titane, cet arceau de protection placé au-dessus de la tête des pilotes. Et l'ironie de l'histoire, professeur Saillant, c'est que Romain Grosjean était contre la mise en place de ce halo, hein, quand ça a été décidé en 2007.
Ce halo, il a été réfléchi après l'accident de Jules Bianchi en 2014, je crois.
Oui, c'est ça, 2014.
Et il a été mis au point jusqu'en 2017, parce que tout a des avantages et des inconvénients. Ça peut gêner la vue, ça peut limiter la facilité pour sortir le pilote de la voiture lorsqu'il y a un accident, mais ça a l'avantage de le protéger considérablement lorsque des roues, lorsque un certain nombre d'éléments de voiture d'accident viennent se projeter sur le pilote. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose d'extraordinaire qui a été mis au point il y a 2 ans. Et effectivement, des pilotes étaient relativement opposés, et si je me souviens bien, Romain n'était pas dans les... ceux qui étaient enthousiastes de la chose.
Et il était président du syndicat des pilotes. Il
oui,
a d'ailleurs reconnu à posteriori
oui,
la petite
oui,
vidéo
oui.
qu'il a postée hier. Il a remercié pour l'existence de ce halo. Sans ce halo, on pleurait Romain Grosjean aujourd'hui?
Oui. Enfin, faut pas être formel dans la vie, mais oui. De même qu'on pleurerait peut-être Charles Leclerc à son accident de Spa il y a 2 ans, ou 1 an ou 2 ans, lorsque Alonso est passé au-dessus de sa voiture. Et la meilleure preuve, c'est que le halo de Charles était pas cassé, mais la peinture était complètement partie, donc toute la voiture de Alonso avait frotté là-dessus. Elle aurait frotté sur sa tête. Donc je pense qu'on peut dire que oui, il doit sa vie au halo.
Est-ce qu'il y a d'autres innovations souhaitables ou à venir en matière de sécurité en Formule 1?
Il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites contre l'incendie, mais là, manifestement, c'était difficile à envisager parce que la voiture était en deux morceaux. C'est la première fois que l'on voit une Formule 1 véritablement en deux morceaux. Il y a le Hans, cet appareil qui permet d'éviter ces mouvements de whiplash, c'est-à-dire de coups de fouet de la colonne cervicale et qui élimine un certain nombre de tétraplégies, comme l'a eu Streff il y a 30 ans et d'autres pilotes à des accidents relativement importants. Et puis, il y a toujours des améliorations à apporter. Et ces améliorations, on peut les apporter de deux façons. Soit de façon rétroactive, on analyse un accident, on analyse le mécanisme de l'accident, les conséquences techniques et physiques de l'accident, et on agit. Et puis la deuxième façon, c'est d'être proactif et d'essayer d'anticiper ce type d'accident. Là, cet accident, il est passé entre deux lames d'une barrière que vous avez, vous voyez, le long de vos autoroutes. Mmh. Nos autoroutes, c'était absolument ahurissant. Fallait l'envisager, y penser. Donc c'est ce genre de choses, il faut imaginer tous les scénarios, même les plus improbables.
Dans le même type d'accident, François Sévère sur sa Tyrrell n'avait pas eu cette chance en 73, il avait été décapité lui. Hein.
Donc
là, on est vraiment dans du concret. Ça veut dire que l'accident de Romain Grosjean d'hier, vous allez le décortiquer, vous allez l'analyser pour voir ce qu'il y aurait encore à améliorer.
Dans chaque voiture, il y a un ADR, c'est-à-dire une sorte de boîte noire qui analyse absolument tout. Et de même que le pilote a dans les oreilles des accéléromètres qui permettent d'analyser le nombre de G qu'il a pris dans chaque oreille, s'il y a eu des mouvements de rotation. Il y a des caméras à 1000 images secondes qui montrent les mouvements de la tête, qui montrent ce qui s'est passé. Tout ça, c'est décortiqué, c'est analysé. Et à partir de là, on voit les améliorations que l'on peut apporter sur l'environnement de la voiture, sur la voiture, sur la tenue du pilote. Et ça, ce sont des détails. Et l'excellence, elle est dans le détail.
Et pour donner une idée du degré de technologie, vous dites 1000 images secondes pour la caméra. La télé, c'est 24 images secondes. Hein. Donc voilà, pour donner un peu de...
Vous êtes très en retard.
On est très, très en retard. Le pilote, cet accident a provoqué énormément d'émotions, notamment chez les pilotes. Le pilote Renault Daniello Ricciardo s'est dit dégoûté et déçu de la Formule 1 d'avoir montré les images, y compris de la caméra embarquée à bord de la voiture de Romain Grosjean. Montrer ça comme si on était à Hollywood, ça ne va pas. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous partagez cette émotion?
Je pense que dans l'émotion, d'abord, la première chose relativement favorable, c'est qu'on n'a pas montré l'image tant qu'on ne savait pas s'il était en vie ou non. Et tant qu'on l'a vu sortir et que ce n'était pas trop grave, l'image a été montrée. Ça, je crois que sur le plan humain, c'est très important pour tout le monde et en particulier pour ses proches et pour la famille. Ensuite, c'est vrai que le sport, c'est un sport, c'est également un spectacle, c'est également une sorte de show. Et les gens veulent absolument ce show. Alors, je ne dis pas qu'ils veulent les accidents, mais ils veulent essayer de comprendre, ils veulent essayer de voir. Peut-être qu'on est allé un petit peu trop loin dans ces images, mais je pense que c'est une évolution tout à fait naturelle contre laquelle on ne pourra pas lutter.
Vous avez créé Professeur Saillant avec Jean Todt et le soutien de Michael Schumacher, l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière que vous présidez, dont je le disais tout à l'heure. J'aimerais vous poser une question sur votre ami Michael Schumacher et que vous nous donniez de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on a le droit d'y croire?
Comme vous le savez, je ne peux pas vous répondre et Jean Todt a l'habitude de dire que ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Donc je ne parlerai pas. Je le vois régulièrement, Jean Todt le voit régulièrement et son évolution se poursuit.
Merci. J'ai une toute dernière question alors sur un autre sport, parce que vous touchez à tout genre de sportif au sens propre en étant chirurgien. Football, on parle beaucoup de trop de matchs en ce moment, de joueurs qui sont saturés, etc. Est-ce qu'on met les joueurs de foot en danger, professeur Saillant, avec un calendrier un peu fou?
Sur le plan vital, non, c'est pas comme la Formule 1. Le risque vital n'existe pas. Mais on les met manifestement en danger. Et quand on voit statistiquement le nombre de blessures qu'il y a depuis le début de la saison, je crois que pour le PSG, c'est 18. Je crois que pour Manchester, les quatre finalistes du final 8, je dirais, ont au moins 10 à 20 blessés, ce qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc ça, c'est obligatoire parce qu'il n'y a pas eu véritablement de trêve et qu'il y a un match tous les deux jours. Et que je connais bien au niveau du PSG, ils ne s'entraînent plus. Ils récupèrent entre deux matchs. Donc c'est sûr que là, il y a un surentraînement très, très certain qu'il faut, contre lequel il faut essayer de lutter. C'est vrai que le Covid est responsable un petit peu de ça parce que ça a bouleversé le calendrier, mais il faut tenir compte de la santé des athlètes.
Il y a un risque de casser des joueurs aujourd'hui?
Cassé, c'est un grand mot, mais effectivement, blessé, quand vous avez une rupture du ligament croisé, c'est pendant 6 mois. Quand vous avez une lésion musculaire, c'est pendant 1 mois. Donc c'est les casser un peu, oui, c'est sûr.
Merci infiniment, professeur Saillant, Gérard Saillant, d'être venu nous voir ce soir sur RTL. Merci à vous.
Je vous remercie.
La culture de l'actu avec le docteur Molcou, c'est un autre registre médical. Julia Molcou qui s'intéresse à la fracture du pied de Joe Biden. Fallait pas faire le foufou avec votre chien, monsieur le président américain. À tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto.